question de la table ronde, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas pour la langue, notamment, par exemple, dans nos métiers de la science humaine, comment ils évoluent? Et je me tourne alors vers Lison Burla et Marie Fornet-Fanter, traductrices donc, de SHS, qui observaient bien cette automatisation de la traduction. Et je passe la parole à Lison. Merci, j'ai eu un petit doute. Donc Lison Burla de la MSH, Paris-Saclay, pardon.
Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction et puis merci aux collègues qui organisent ces journées aussi, qui se concluent par cette table ronde. Donc moi, la proposition et le propos que je vais tenir aujourd'hui, en fait, est plutôt issu d'une activité de recherche que j'ai faite en master à l'EHESS il y a quelques temps, mais pas si longtemps que ça, mais les choses ont beaucoup bougé entre 2020 et aujourd'hui. Et c'était un mémoire de master qui portait sur les trajectoires et les conditions de travail des traductrices professionnelles spécialisées dans les sciences sociales. Et c'est évidemment un objet qui ne m'a pas vraiment quitté depuis dans le cadre de mes fonctions d'éditrice, et notamment d'éditrice d'une revue bilingue français-anglais qui m'amène à travailler aussi avec des traducteurs et des traductrices. Et donc depuis ma position un petit peu hybride entre recherche sur la traduction et éditrice de revue, je vais essayer d'apporter quelques éléments de contexte et de réflexion pour nous aider à appréhender ce que pourrait faire la traduction automatique neuronale et l'intelligence artificielle générative, ce que ça fait déjà, mais aussi voilà, d'essayer d'avoir un peu de recul et de projection autant que possible. J'ai parlé de travail du texte dans le titre de la présentation, aussi en clin d'œil au titre qui avait été donné aux rencontres de l'édition en sciences sociales, parce que mon intérêt, c'est aussi de comment s'organise ce travail du texte dans les revues, et notamment entre éditeurs et traducteurs. Moi, je me suis intéressée à la traduction des sciences sociales d'abord avec une entrée par le genre pour essayer de comprendre pourquoi c'était une activité très féminisée, exercée principalement par des femmes, pour comprendre en quoi ça pouvait jouer dans la reconnaissance qu'a cette activité en tant que métier, et aussi pour observer comment se structure la profession. Et le début de ma recherche coïncidait avec la création de l'Association des traducteurs et éditeurs de sciences sociales, l'ATES, en 2018, donc, qui est représentée aujourd'hui par Marie. Donc moi, je vais avoir un propos peut-être un peu plus théorique, et Marie, en tant que traductrice elle-même, voilà, donnera peut-être des éléments plus concrets. Donc cette dernière année en particulier, j'ai observé moi une structuration de la profession précisément au moment où elle se trouve mise en concurrence par la traduction automatique neuronale, mais aussi par les agences de traduction qui investissent le domaine du monde académique et des sciences sociales, et justement qui saisissent aussi les possibilités offertes par la traduction automatique neuronale comme en termes de productivité, de réduction des coûts, comme une opportunité. Donc ces deux mutations que sont les agences et la traduction automatique neuronale sont assez connectées dans le cas de la traduction. Et c'est justement dans ce contexte que l'ATES s'était créée avec l'ambition de contribuer à la professionnalisation, d'une part, de la spécialisation, d'œuvrer à sa visibilité et à sa reconnaissance en tant que champ spécifique parmi d'autres domaines de la traduction, et de constituer aussi une alternative aux agences de traduction. Et cette année, dans le contexte un peu décuplé des questions sur l'IA et sur la traduction automatique neuronale, on a observé aussi une forte dynamique interprofessionnelle aussi, et entre des associations professionnelles, et notamment dans différents domaines de la traduction, qui se sont mis à se parler davantage et à faire aussi, avoir des réactions communes. Et cette dynamique de se structurer précisément au moment où on est mis en concurrence, c'est tout à fait ce que Andrew Abbott, qui est sociologue du travail notamment, c'est tout à fait ce qu'il explique en fait, en disant, alors je ne vais pas tout vous lire, mais que les professions sont en concurrence avec les autres et qu'elles aspirent à se développer en s'emparant de telle ou telle sphère du travail qu'elles transforment ensuite en juridiction, et que ces développements, il dit, peuvent avoir des causes extérieures au système, être dues notamment à des changements technologiques ou à des nouvelles formes sociales, d'organisation sociale comme la bureaucratie, et que c'est précisément à ce moment-là que les professions saisissent ces occasions-là pour se constituer en association, etc. Donc c'est voilà, intéressant de poser à bot pour essayer de comprendre ce qui se joue, puisque en fait les changements technologiques qui en cours, et ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les derniers qu'on connaîtra, viennent un peu retracer les contours de nos métiers, et chacun à notre place dans la chaîne de production scientifique, on se demande quelle est notre expertise, quels sont nos domaines de compétences respectifs, quelles tâches nous incombent à nous éditrices, ou plutôt à nous traductrices, plutôt qu'à vous chercheurs, ou inversement. Et voilà, on réfléchit de nouveau au partage des tâches, dans les revues notamment. Et en ça, les traductrices, par exemple, par rapport à la post-édition dont Marie va parler beaucoup plus, donc qui consiste, pour le dire rapidement, à réviser des textes dont le premier jet a été généré par la traduction automatique neuronale. Les traductrices, elles se positionnent par rapport à la post-édition en estimant que c'est une tâche qui dénature leur métier, leur relation de travail avec les auteurs. Et en mettant à distance la post-édition, elles visibilisent et promeuvent aussi une certaine conception du métier de traductrice des sciences sociales pour légitimer leur spécialisation. Donc ça les amène à affirmer aussi une identité professionnelle. Et pour ce qui nous concerne, nous, un autre exemple que je pourrais donner, c'est la question du design graphique et du fait que, avec la semi-automatisation possible de la mise en page, on entend quand même des discours qui sont portés par voilà, certaines personnes parmi vous, de dire bah, en fait, ce n'est pas mon métier, le design graphique, c'est celui de maquettiste, et je ne veux pas que ça le soit, et qu'ils sont dans une position assez défensive vis-à-vis de ça. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi vis-à-vis de la traduction et de la post-édition, de renvoyer vers une autre profession en estimant que ce n'est voilà, que c'est pas notre travail. Donc c'est tout le principe de penser un peu ce que Abbott appelle l'écologie des professions, et de penser les métiers interconnectés entre eux, en fait. Et des effets sur un métier, comme sur celui de la traduction, ont des effets sur notre métier à nous d'éditeurs et d'éditrices. Ce qui se joue aussi pour comprendre la réception en fait, des changements technologiques par une profession, c'est la question de l'identité professionnelle et des trajectoires des personnes qui occupent cette profession. Et là, j'ai pu, moi, voir un point commun entre traductrice et éditrice, puisque deux profils coexistent au sein de la traduction des sciences sociales. Il y a des traductrices qui sont arrivées aux sciences sociales par une formation spécialisée à la traduction, et puis il y en a d'autres qui sont arrivées à la traduction par une formation spécialisée en sciences sociales, et elles étaient majoritaires dans les enquêtées voilà, avec qui je me suis entretenue. Les traductrices qui ont un doctorat au minimum et qui aussi voilà, ont un fort attachement à la dimension intellectuelle du métier, à la dimension interpersonnelle, et qui se placent dans une relation de travail avec les chercheurs de pair à pair, plutôt que et qui donc en fait marquent une forme de réticence à toute forme d'organisation du travail qui reviendrait à les considérer comme des prestataires. Et on observe aussi une partition comme ça dans l'édition où parmi nous il y a des personnes qui sont arrivées à l'édition des sciences sociales après avoir été formées au métier de l'édition en général, et qui parfois ont travaillé même dans d'autres domaines avant, et d'autres qui sont arrivées à l'édition des sciences sociales par une formation plutôt à la recherche. Alors parfois on a aussi certaines, et j'en fais partie, ont des formations un peu complémentaires à cet égard, mais c'est intéressant de se poser cette question là parce que ça amène des conceptions parfois un peu différentes du métier, de ce qu'on considère comme étant du travail bien fait ou pas, qu'on ne place pas toujours au même endroit. Et tout ça est à prendre en compte. Voilà. Il y a aussi une différence statutaire dans les métiers qui sont concernés par la revue, que ce soit chercheur, éditeur ou traducteur, et d'ailleurs je pourrais plutôt dire chercheur, éditrice et traductrice, parce que le métier de chercheur bénéficie d'une reconnaissance symbolique historiquement, et celui... Quand le métier de traductrice ou d'éditrice, historiquement, ont été en fait, souvent exercés bénévolement. Là-dessus, je renverrai notamment à l'article de Nathalie Zeman-Davis sur le cas des femmes dans le monde des annales. Et c'est intéressant aussi à prendre en compte parce que, comme le dit Michel Golac, en fait, il explique que l'informatisation elle a rarement des effets directs, elle a souvent des effets médias qui dépendent du contexte organisationnel dans les entreprises, des mécanismes économiques d'ensemble, de la structuration des professions, voire des relations entre groupes sociaux. Moi, c'est plutôt à cet aspect-là que je me suis intéressée. mais dans notre cas, l'arrivée, le développement possible de la traduction automatique neuronale et de l'intelligence artificielle vont être dépendants des transformations institutionnelles en cours en termes de soutien à l'édition, des dynamiques de l'édition scientifique dans son ensemble, et notamment du point de vue économique, des phénomènes de concentration, de la financiarisation d'une partie de l'édition scientifique et de la structuration de nos professions. Ensuite, pour la traduction des sciences sociales, il y a quelque chose qui compte aussi, c'est le fait que la traduction, c'est une activité qui est aussi exercée par les chercheurs eux-mêmes, qui voient la traduction parfois comme une partie intégrante de leur activité de recherche en tant qu'exercice formateur et réflexif. Et la traduction est dotée dans les sciences sociales d'une fonction très symbolique. Certains chercheurs mobilisent la traduction pour importer des travaux de collègues pour les légitimer en France ou pour légitimer parfois leur propre position dans un champ d'études, et c'est ce qu'explique Bourdieu dans sa communication qui a été publiée en 2002, les conditions sociales de la circulation internationale des idées. Et on peut se dire que vis-à-vis de cette fonction symbolique et de l'attention aussi à ce que c'est que l'écriture de la recherche, j'ai mis une citation de Christian Lebart et Florent Mazel, qui estiment que l'écriture consiste non pas à restituer les résultats d'une investigation, mais à produire ce résultat en écrivant. On peut se dire vis-à-vis de tout ça que du coup, la traduction automatique neuronale, qui en fait n'est pas capable de production puisqu'elle fait à partir de l'existant, ça ne pourrait pas se développer en sciences humaines et sociales. Et pourtant, en fait, l'idée qui sous-jacente, qui est quand même aussi celle de la traduction par les chercheurs, pour les chercheurs, quitte à ce que certains refusent parfois toute forme d'interventionnisme extérieur, et puis on rencontre ça aussi un peu en édition, parfois des chercheurs qui refusent d'être édités, en estimant, en voulant garder le contrôle, ça crée un terrain qui est assez propice en fait à l'usage de la traduction automatique et de l'intelligence artificielle générative, parce que ça leur permet une forme d'autonomisation en fait dans la préparation des textes. Moi, j'ai déjà entendu des chercheurs qui utilisent déjà ChatGPT pour raccourcir leurs textes, mettre aux normes leurs biblios, etc. Donc on peut se demander aussi si on va arriver à un moment où on aura de l'édition sans éditeur et de la traduction sans traducteur. Et l'enjeu là, pour nos métiers, c'est de visibiliser, en fait, d'expliciter ce en quoi consiste notre métier et de lever un certain nombre de quiproquos aussi. Et sur cette question aussi de la subjectivité qui est mise dans le travail éditorial et dans le travail de traduction, je renverrai aussi à ce que Stéphane Lelay, dans son article de 2014 sur les critères de rédaction, disait à propos de la discrétion en fait un peu exigée quand on est éditeur ou éditrice, de surtout pas se montrer trop présent dans le texte et trop interventionniste. C'est quelque chose que l'historien Laurence Venuti relevait aussi par rapport à la traduction, en faisant le lien entre un lien de causalité, enfin il faisait un lien de causalité entre l'impératif d'effacement de la traductrice derrière le texte et la faible rétribution économique et sociale de la traduction. Tout ça est aussi assez lié et crée un contexte relativement favorable, pas au sens où on est forcément pour, qui en tout cas est propice à l'émergence de la traduction automatique, toutes ces idées-là. Je parlerai en me dépêchant un peu aussi de la question de la désubjectivation et de la dépersonnalisation de la relation de travail. Parce que en fait, quand on considère qu'on doit être discret quand on fait du travail éditorial, ça veut dire qu'on met pas de notre subjectivité dans le travail du texte. Et la désubjectivation, c'est quelque chose qui a déjà été pointé du doigt lors des journées Médicis 2022 à propos de la technicisation du métier. Voilà, c'est aussi des discours que moi, qui suis une nouvelle arrivée dans cet environnement, entends régulièrement. Et effectivement, en fait, il y a un risque de perte d'épanouissement en fait dans le travail, selon aussi ce qu'on y met comme importance, et qui sont c'est un risque qui est assez lié en fait à l'informatisation du travail, etc., puisque ça nous amène à travailler de façon plus fragmentée, de façon plus formalisée, etc. Et là aussi, on peut tirer des fils entre édition et traduction. Quand dans le cas des agences de traduction et de la traduction automatique neuronale, les traductrices, elles sont parfois privées d'un rapport direct au texte source et à l'auteur, qui contribue à dépersonnaliser la relation de travail. La question qui se pose aussi, c'est celle de la standardisation. Est-ce que la traduction automatique neuronale et l'IA générative vont être utilisées pour traduire des contenus déjà standardisés et une masse de contenus? Ou est-ce qu'on va standardiser des contenus pour qu'ils soient traduits pour la traduction automatique neuronale et l'IA générative en évitant, comme ça a été dit un petit peu dans la méthode optimiste, des termes qui seraient polysémiques, etc. Donc on voit qu'il y a une adaptation au texte avant qu'il soit traduit dans le cas de la traduction automatique. Et ça pose évidemment question dans la part de créativité qu'on peut avoir dans nos métiers, dans le plaisir au travail. Et là, c'est une citation voilà, un peu forte, mais d'un autre sociologue du travail, Juan Sebastian Carbonell, qui dit que en fait, les nouvelles technologies ne servent pas forcément à rendre le travail autonome, créatif et passionnant, qui sont des discours qu'on entend parfois, l'idée qu'on se concentrerait sur des tâches plus intéressantes en déléguant d'autres à la machine, et que bien souvent, ces nouvelles technologies contribuent à intensifier le travail, déqualifier les salariés quand ce n'est pas à les discipliner et à les surveiller. Donc voilà, c'est une phrase qui donne un peu le ton, mais qui est assez juste et documentée sur des cas d'automatisation du travail dans d'autres domaines. Voilà, je m'arrêterai là peut-être en disant un tout dernier petit mot sur le fait qu'on parle souvent de la traduction automatique de DeepL ou de ChatGPT aussi comme des outils. Et je pense que les termes qu'on emploie sont importants. Déjà, rien que le terme d'intelligence artificielle pose un peu question. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence ? Les outils, en fait, c'est moi je vois plutôt ce qui nous arrive comme des dispositifs, en fait. Là aussi, c'est pardon pour le côté un peu théorique et de sortir plein de noms, mais dispositif au sens de Foucault, comme quelque chose qui est inscrit dans des relations de pouvoir et qui n'arrive pas dans un contexte neutre dans lequel il ne s'est rien passé du point de vue de nos professions et de leur transformation. Voilà, et après ces éléments, je laisserai la parole à Marie qui sera un peu plus concrète sur son expérience, je pense. Merci beaucoup.